Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Beaucoup sont persuadés que le destin ultime de Satan est la mort. Est-ce bien cela qu'affirme la parole de Dieu? Je viens de lire un document sur ce sujet et je constate qu'en essayant de prouver le contraire de ce qu'affirme la Bible, on apporte une fois de plus une explication et une interprétation personnelle de la parole de Dieu. C'est le cas pour l'auteur du texte que j'ai examiné, qui cite notamment le Targum. Mais qu'est-ce que le Targum? Le Grand Larousse encyclopédique en 10 volumes nous en donne la définition suivante. Traduction ou paraphrase chaldéenne de l'Ancien Testament. Cette même encyclopédie définit le mot paraphrase de la sorte. Traduction amplifiée, développement explicatif d'un texte, discours ou écrit verbeux, diffus. Le grand dictionnaire universel du 19e siècle par Pierre Larousse précise. Paraphrase ou traduction chaldaïque de l'Ancien Testament. Pendant la captivité de Babylone, le dialecte chaldéen s'était tellement mélangé au dialecte hébreu que, lorsque les Juifs revinrent chez eux, ils avaient presque entièrement oublié leur langue sacrée et qu'il leur était impossible de comprendre le texte des livres saints. Aussi, les prêtres étaient-ils obligés, pour expliquer la loi au peuple, de se servir de la langue vulgaire, qui devait se rapprocher considérablement du chaldéen. Au bout de quelque temps, ces commentaires de vive voix, ces glosses orales, furent rédigés d'une manière définitive et confiés à l'écriture. Ce furent les Targums, qui non seulement traduisaient littéralement le texte original, mais y ajoutaient encore quelques explications indispensables. On compte 10 Targums principaux. Fin de citation. Pourquoi chercher des explications humaines que l'on considère indispensables pour tenter d'expliquer la parole inspirée de Dieu, alors que Jésus a déclaré « L'Écriture ne peut être anéantie » et avant son arrestation, il affirma à son Père « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Il n'y a donc aucune raison de chercher hors de la Bible les explications qu'elle fournit elle-même et que l'on peut facilement comprendre pour autant que l'on prenne la peine de réunir tous les versets qui traitent du même sujet. L'apôtre Pierre a écrit dans sa première épître « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Dans sa seconde épître, Pierre ajoute « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-il possible que le destin ultime de Satan et des démons, qui tous sont des êtres spirituels, soit la mort? Que dit la Bible au sujet des anges? Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Dans ce passage, le mot « esprit » est traduit du grec « pneuma » et il se rapporte aux démons. Dans son épître aux Hébreux, Paul ajoute « Et auquel des anges, a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Ici, le mot « esprit » est aussi traduit du grec « pneuma » et il se rapporte aux anges. Pierre écrit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Le mot « esprit » est encore traduit du grec « pneuma », qui est différent de « psouké », qui lui signifie « âme »,« être », »,« vie ». Le mot « prison » est quant à lui traduit du mot grec « phoulaké », signifiant une mise sous garde, une place, une condition, une prison. Le mot incrédule est tiré du grec apeitheo, pouvant signifier désobéir d'une manière volontaire et perverse. Ce mot est traduit par rebelle dans la version synodale, édition 1948, ainsi que dans la Bible traduite sous la direction du cardinal Liénard, édition 1951. Déjà avant le déluge, Satan et ses démons s'étaient tellement bien acquittés de leurs tâches que presque toute l'humanité succomba à leurs efforts. Elle pécha et s'engagea de plus en plus dans la voie de la perdition. Voilà pourquoi le Christ, qui est un des deux membres de la famille divine, est allé prêcher aux esprits, aux anges déchus, enchaînés éternellement par les ténèbres. Il ne peut s'agir des méchants qui, eux, seront détruits. Les anges déchus sont confinés à cette terre, comme le confirme Jésus. Il dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Et l'apôtre Jean précise « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Quand le Christ est-il allé leur prêcher? La Bible situe cet événement en ces termes, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche. C'est alors que l'Éternel, qui plus tard allait devenir le Christ, mit en garde les anges déchus au sujet du châtiment qui leur sera infligé pour avoir été complices de Satan en trompant, en séduisant l'humanité. Christ ne pouvait pas prêcher aux morts par l'Esprit, puisque ceux-ci sont inconscients. Il n'y a même plus de pensée pour eux. Ils dorment. Les morts n'ont pas encore obtenu leur récompense, c'est ce que confirme Paul dans son épître aux Corinthiens, aux Hébreux. Christ a prêché aux anges déchus qui restent des êtres immortels et non pas aux morts physiques. La Bible enseigne donc que les anges sont des esprits, des êtres spirituels, tout comme les démons, et qu'ils soient anges ou démons, ils ont un corps incorruptible, ils sont immortels, contrairement à l'homme qui, lui, est mortel. L'apôtre Paul écrit « Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, c'est-à-dire un corps physique, il y a aussi un corps spirituel. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, autrement dit physique. Ce qui est spirituel vient ensuite. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» L'apôtre Paul écrit encore « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les êtres spirituels, les esprits sont invisibles et éternels, comme Paul l'écrit. » Il poursuit, et je cite la Bible en français courant, « Nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure qu'il a faite lui-même et qui durera toujours. Et nous gémissons maintenant, car notre désir est grand, d'être recouverts de notre habitation. En effet, dans la mesure où nous en serons recouverts, nous ne serons pas dépourvus de corps. Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus du corps céleste, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Paul se réfère à la vie éternelle qui sera inhérente en tous ceux qui auront revêtu un corps spirituel. Si les anges sont immortels, les anges rebelles le sont aussi. Leur rébellion ne leur a pas ôté l'immortalité. Si Dieu les faisait périr, quelle preuve aurions-nous qu'il ne détruirait pas un jour ces enfants qui naîtront au sein de sa famille dans son royaume? Comprenons bien ce que Paul écrit dans l'Épître aux Hébreux. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, il est question ici du Christ, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Comment le diable peut-il être anéanti? Le mot original grec est katargeo, qui signifie restreindre, rendre sans effet. La version Darby traduit ce passage des Écritures de la manière suivante. Donc, puisque les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé, afin que par la mort il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Comment Satan et ses démons deviendront-ils impuissants, sans effet? La réponse nous est donnée par l'apôtre Paul. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. La cause de la mort, c'est le péché. Et la puissance, la force qui est donnée à la mort, est provoquée par la transgression de la loi. La transgression de la loi n'existera plus, lorsque l'homme naîtra au sein de la famille divine, c'est alors que la mort deviendra sans effet, tout comme Satan et ses démons deviendront sans effet, car ils ne pourront plus séduire ceux qui seront participants de cette grandiose famille divine. Nous trouvons une preuve que les démons ne mourront pas dans Jude au verset 6. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Leur demeure était la terre qu'ils ont quittée pour tenter de conquérir le trône de Dieu. Au sujet de ceux qui seront dignes d'avoir part au siècle à venir et à la première résurrection des morts, Jésus ajoute « Ils ne pourront plus mourir ». Parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Précédemment, ils étaient fils engendrés, mais lors de la résurrection, ils naîtront dans cette famille. De quoi avons-nous besoin pour comprendre la parole de Dieu? Certainement pas du raisonnement humain, pas plus que de l'interprétation humaine des Saintes Écritures. Laissons donc toutes ces réflexions, toutes ces déductions de côté, et soumettons-nous à ce que Dieu révèle. Qu'il soit bon ou mauvais, soumis ou rebelle, un ange reste un ange, il reste un être spirituel et ne peut mourir. C'est ce que la Bible déclare.